France Inter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Grand Bien vous fasse, nous sommes à vos côtés tous les jours de 10h à 11h sur France Inter. C'était un mélange de troubles, de plaisir et de peur. Ce sont les mots de Marivaux dans son roman inachevé La vie de Marianne. Et ces mots, tout à coup, deviennent nôtres quand il s'agit de parler du sentiment amoureux. La naissance vertigineuse d'un sentiment qui chamboule les corps et les âmes. Mais comment expliquer ce bouleversement? À quel moment intervient-il? Comment l'entretenir tout au long de la vie? Vous pouvez nous envoyer vos courriels et vos notes vocales sur l'application de Radio France ou nous laisser un message sur la page Facebook et sur WhatsApp. Nous sommes le lundi 14 juillet, vous écoutez France Inter. Grand bien vous fasse, c'est aussi l'été.
France Inter. Grand bien vous fasse. Eva Rock.
Comment tu fais pour le faire savoir que tu es amoureux?
En général, on ne le fait pas savoir. On garde ça dans son cœur. Moi, ça se voit sur mon visage, disons.
Toi, tu l'as eu déjà, le coup de foudre?
Oui, une fois, oui.
Et qu'est-ce que ça t'avait fait dans ton cœur?
Je suis rentrée dans la classe et puis j'ai fixé quelqu'un. Puis je pouvais pas détacher mes yeux de cette personne. Et puis la maîtresse, elle me parlait, mais alors j'étais pas du tout sur terre.
J'ai mon cœur qui bat vite et puis j'ai un petit peu mal au ventre aussi.
T'as mal au ventre?
Ouais.
C'est agréable ou c'est désagréable alors?
C'est agréable.
Ouais. T'as été souvent amoureuse?
Oui.
Combien de fois, tu sais?
Ah non, je sais pas. Je lui ai dit que je l'aime. Comme ça, je lui ai dit je t'aime. Et voilà, c'est terminé.
Bah oui, c'est terminé. Comment ne pas craquer à l'écoute des mots de ces enfants interrogés pour l'émission Moi Je sur Antenne 2 en 1985, la naissance du sentiment amoureux. C'est notre sujet du jour que nous allons aborder avec nos trois invités. Bonjour Claire Alquet.
Bonjour.
Vous êtes sexologue et récemment je vous ai découvert dans une bande dessinée formidable, celle de Marie de Brouwer, une BD qui parle de cul. C'est aux éditions Le Duc Graphique. Vous ressemblez pas totalement au personnage en question.
Non, c'est vrai.
Bon, on vous remercie d'être là avec nous ce matin.
Merci à vous.
Bonjour Élodie Ripoll.
Bonjour.
Maîtresse de conférence au département d'humanité numérique de l'université de Trèves, vous avez co-dirigé un ouvrage absolument passionnant, Tomber en amour, enquête sur la naissance du sentiment au XVIIIe siècle. C'est paru aux éditions Classiques Garnier. Et je suis très heureuse de vous présenter également un artiste que nous aimons beaucoup avec l'équipe de Grand Bien vous fasse. Bonjour Ben Mazué.
Bonjour.
Quand nous avons préparé l'émission avec l'équipe, on s'est demandé quel chanteur évoquait l'amour et la naissance de ce sentiment amoureux. Et votre nom a été une évidence. Est-ce que vous savez pourquoi? Comment on peut l'expliquer?
Écoutez, déjà, ça me fait plaisir, en tout cas. Peut-être parce que j'en parle beaucoup du sentiment amoureux, peut-être aussi parce que ma musique a commencé par ça, j'imagine, par la naissance d'un sentiment amoureux.
Dans votre podcast Amour Jungle, on dit bien Amour Jungle, hein, on ne dit pas Jungle, hein, Amour, ouais. Amour Jungle, vous dites que vous adorez tomber amoureux, que vous adorez dire je t'aime, ça a toujours été le cas?
Oui, ça a toujours été le cas depuis petit. Là, je vois par rapport au document que vous venez de passer, c'était dès le début. Et c'est marrant maintenant que j'ai des enfants, je réalise que c'est pas le cas de tous les enfants, que c'est pas systématique. Oui, moi j'ai toujours aimé l'idée du sentiment amoureux. Je pense que d'ailleurs il faut s'en méfier parce que c'est pas la réalité du sentiment amoureux. C'est la naissance de quelque chose, mais qui est très potentiel en vérité. Donc moi j'ai aimé vraiment croire au potentiel beaucoup.
On va y revenir sur cette idée de potentialité que vous exploitez beaucoup. Et qui est extrêmement intéressante. Votre dernier album est intitulé Famille. Il y a encore question d'amour, évidemment. On va y revenir tout au long de cette émission. On vient d'entendre ces enfants qui décrivent l'amour un peu comme une expérience sensorielle. Si on réalisait ensemble, tous les quatre, une radioscopie de ce sentiment amoureux, pour vous, ça ressemblerait à quoi? Enfin, à quoi vous pensez instinctivement? Ça passe par quelle partie de notre corps, selon vous, Claire Alquet?
Donc, au niveau physique.
Oui, au niveau physique, vous diriez quoi, vous?
Moi, j'identifie ça pas mal à la sensation de rosissement des joues.
Oui.
Et oui, un peu le cœur qui bat un peu plus vite, des manifestations un petit peu comme ça, d'intensité, de course, d'essoufflement, enfin voilà.
Et vous, Ben Mazué?
La question, c'est le sentiment amoureux, c'est ça?
Oui, bah, il traverse quelle partie de votre corps, pour vous?
Je dirais qu'il se rapproche pas mal de ma définition du bonheur, bizarrement. J'ai l'impression, une joie, quoi. Quelque chose de l'ordre de la joie...
Intense, en fait?
Qui me traverse, ouais. Ouais, complètement. Quand on me dit une très bonne nouvelle... ça ressemble un peu.
Ça ressemble à ça.
Voilà, ouais.
À ce sentiment amoureux.
Oui.
Mais vous avez par exemple les joues qui rougissent, comme vient de le dire Claire, ou pas
du
tout?
Ah oui, à la rencontre de l'amour.
Ouais,
oui.
À la rencontre.
Mais le sentiment lui-même. Ah oui, bien sûr, moi je rougis. Bah, tout le temps. Mais je, le sentiment lui-même, il est tout le temps. Il n'est pas seulement, j'ai l'impression, pas seulement à la rencontre de la personne qu'on aime. On est un peu pris de ce sentiment un peu tout le temps. Moi, c'est une espèce de moteur, de carburant. C'est pour ça que je pensais à la bonne nouvelle ou à la joie.
Et vous, Élodie Ripoll, le moment de la rencontre, il se matérialise dans votre corps ?
Alors, je vais reprendre ce que disait Claire par rapport au...
Au rougissement,
mais aussi je penserai au regard, parce que c'est les deux regards qui se croisent. C'est comme cette phrase qui est un titre d'un livre très important lorsqu'on analyse ce moment en littérature, c'est « Leurs yeux se rencontrèrent ».
Ouais.
Donc on a évidemment chez Flaubert, mais qu'on a bien avant chez Marivaux aussi.
Chez Marivaux. Alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cette approche empirique de l'amour, elle date du XVIIIe siècle. On accepte enfin l'idée que la naissance du sentiment amoureux, elle est liée aussi au corps, c'est ce que vous expliquez dans votre livre. Et en vous lisant, on découvre surtout que ce sentiment amoureux, il date de cette époque, du XVIIIe. Auparavant, c'est quoi ? C'est de la passion plutôt ?
Alors oui, on va plutôt parler de passion au XVIIe siècle. Alors il y a de l'amour avant, évidemment, mais on ne porte pas le même regard sur ce phénomène. Au XVIIIe siècle, alors bon, la passion au XVIIe, c'est plutôt celle qu'éprouve la princesse de Clèves ou Phèdre. Donc c'est quelque chose qui est évidemment un grand bouleversement de l'individu, mais qui représente une menace pour la société, parce que ça n'est pas intégré au mariage, et donc ça pose tout un nombre de problèmes. Au XVIIIe siècle, alors on va inventer ce nouveau terme de sentiment pour justement parler des émotions. Mais surtout, c'est l'époque où apparaissent deux expressions, donc le coup de foudre, hein, qui entre dans le dictionnaire en 1798, et tomber amoureux, qu'on attribue
à Marivaux.
Mais ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas le cas, oui.
Et justement, voilà, ces deux expressions lient la naissance de l'amour au ressenti du corps. Donc on a vraiment cette irruption du corps...
qui arrive au XVIIIe siècle. Mais ça ne veut pas dire que ce droit au bonheur, il continue à être codifié au XVIIIe.
Ah oui, bien sûr, la finalité, ça reste le mariage. Hein. Ouais. Les mariages sont en général quand même arrangés. Bon, on reste dans cette perspective-là. Le droit au bonheur existe, hein. C'est un nouveau concept qui prend un peu plus de place au XVIIIe siècle, parce qu'on a, après la mort de Louis XIV, dès la Régence en 1715, on va avoir une période de libéralisation des mœurs, de la société. Donc ça va mener au libertinage, hein, qu'on connaît avec Crébillon, Laclos... jusqu'à Casanova et Sade, et aussi à des serments d'amour, de fidélité, qui vont être plutôt emblématisés par le sentiment, la tendresse, donc on est plus proche de Rousseau, de Marivaux. Et effectivement, on a cet horizon du mariage d'amour qui va s'esquisser, et cet amour partagé, voilà, il revalorise aussi le sentiment féminin. Donc.
Oui, c'est ça, très important, on va y revenir évidemment aussi. Claire Alquier, vous faites, vous, une distinction très claire entre la passion et l'amour ?
Alors oui, moi je fais une distinction féministe entre la passion et l'amour. J'entends la passion au niveau littéraire, je peux l'entendre au niveau artistique dans le cadre des relations et dans ce que moi je vois et j'accompagne en consultation et sur le terrain, on va dire. Bien souvent, la passion est une peut-être excuse pour pouvoir se permettre des comportements abusifs, en tout cas entraîner des choses de l'ordre de la violence et de la domination. Donc oui, aujourd'hui, moi, dans mon discours, c'est quelque chose que je déconstruis, même si, encore une fois, sur le plan littéraire, artistique, je peux la considérer.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une forme de, j'allais dire, d'universalité de ce sentiment amoureux qui se manifeste finalement, physiquement, de 5 à 90 ans et dans tous les pays et dans toutes les cultures ?
Bah, si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau neurologique et au niveau hormonal, par exemple, j'imagine qu'on peut parler d'universalité, bien qu'on soit tous et toutes différents quand même. Il y avait des enfants là, dans les paroles qu'on a entendues, effectivement, qui avaient l'air d'avoir accès à ça de manière très très simple. D'autres pour qui ça sera plus difficile parce que l'éducation et probablement la transmission d'une boîte à outils plus ou moins fonctionnelle aussi pour exprimer l'amour. Mais oui, au niveau hormonal, en tout cas, c'est intéressant de voir tout ce qui se diffuse. Et tout à l'heure, Ben, vous parliez de sensations de bonheur, de un peu d'euphorie finalement. Dans l'amour, ça parle effectivement de l'hormone de l'endorphine, qui est quelque chose qui circule bien quand on est amoureux.
Et alors, pardon pour cette question, mais est-ce que dans un cabinet de sexologue comme le vôtre, il y a de la place pour parler de sentiments ?
Bah, j'espère. Ouais. En tout cas, moi, je travaille pour et j'essaie de l'engager parce que bien souvent, bon, on arrive avec un motif de consultation, on arrive avec une notion de la souffrance plus ou moins forte selon... Moi, je reçois beaucoup de couples, donc c'est vrai qu'on va travailler quand même pas mal là-dessus. Après, le but n'est pas de tout sauver. Enfin, on entend beaucoup ce truc de « vous êtes un peu la dernière chance ». C'est la dernière chance quand on arrive ici. C'est un petit peu la dernière tentative qu'on fait pour sauver notre couple ou sauver notre amour. Bien évidemment, on va le travailler un peu différemment. Mais oui, il y a de la place pour parler de sentiments et de sentiments amoureux. Et je souhaite que ça puisse continuer parce que parfois, il s'agit juste de communiquer différemment et les choses vont bien.
On vous a essayé de nous donner un peu des tips, des petits conseils
pour que ça s'entretienne tout au long de notre vie.
On va essayer.
Est-ce qu'avec ce qu'on appelle la génération Z, c'est-à-dire les jeunes qui sont nés après 98, où on dit beaucoup d'eux qui sont biberonnés à la pornographie, que le sentiment n'a plus sa place, est-ce qu'au contraire, vous, ce que vous constatez, c'est si, oui, il y a une place pour le sentiment, et oui, on a envie d'être heureux en amour, et on ne veut pas de rapport de domination?
Oui, moi je trouve qu'il y a beaucoup de réflexions et beaucoup d'accès à de la lecture, à des podcasts, à des choses qui aident à déconstruire un petit peu une pensée un petit peu figée ou étroite sur le couple et le sentiment amoureux. Il y a des jeunes d'ailleurs souvent qui me parlent de sentiments amoureux, ce que je trouve assez intéressant, qui signifie qu'il y a de l'amour, mais que la relation est autrement qu'une relation de couple à deux,
ouais.
Avec la définition un peu classique de on est un couple d'amoureux, enfin on peut être un couple de plein, finalement de plein de manières différentes, et notamment un couple d'amoureux.
D'amoureux, c'est joli comme mot.
Ouais, c'est pas mal.
Ça pourrait être dans une chanson, ouais, Ben Mazoué. Ouais. Vous prenez pas de notes?
Je vous regarde. Si, si, au contraire. Je trouve ça super intéressant.
Mais j'ai une question peut-être un peu plus personnelle, Ben Mazoué, mais qu'est-ce qui vous fait craquer chez l'autre? À quel moment arrive ce coup de foudre? Vous le savez, il y a quelque chose de... Alors, pas de raisonnable, j'imagine que c'est pas du tout raisonnable, mais est-ce qu'il y a un truc qui vous fait craquer systématiquement?
Excuse-moi, j'ai des trucs d'humour qui me viennent.
Ah, vous pouvez y aller.
Dire,
hein.
Quand la personne ressemble à ma mère, ça serait une catastrophe de dire ça. Évidemment que non. Je dis ça parce que ma compagne est rousse et que ma mère était rousse aussi. Donc je me dis qu'il doit y avoir quand même un petit lien, mais j'espère que c'est pas ça. Ah là là, j'ai aucune idée précise de ce qui me fait fondamentalement avoir un coup de foudre. Ce que je sais, c'est que ça peut m'arriver très vite,
ouais.
Et pour plein de raisons. Ça peut être juste une allure, ça peut être une voix, ça c'est sûr, ça peut être une odeur. Donc c'est quand même très différent les trois notions là que je viens de vous
citer. Et ça passe vite ou ça vous chamboule pendant plusieurs jours, ou est-ce que vous pouvez l'avoir pour une inconnue? Et bien voilà, c'est juste un coup de foudre, le temps d'une vision, j'allais dire.
Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant en médecine, on passe beaucoup de temps à la bibliothèque en médecine, et il m'arrivait de temps en temps de croiser le regard d'une fille qui étudiait elle aussi, et de me liquéfier complètement, d'avoir un coup de foudre complet,
ouais.
Pour une personne à qui je n'ai pas parlé, qui est à 2,50 m de moi, et à qui que je vais regarder discrètement toute la journée.
Et vous allez lui parler ou pas du tout?
Mais même pas, non.
Même pas.
Ouais. Enfin, en tout cas, ça m'est arrivé d'essayer de lui parler, mais je veux dire, je peux être capable, je pense, d'avoir un sentiment très puissant en n'allant pas du tout parler à cette personne. Donc j'imagine que je la fantasme principalement et que je sais pas du tout. Enfin, je sais pas du tout qui elle est, mais je pense qu'à l'attitude et au physique, ça peut marcher.
Et c'est cette sensation-là que vous aimez et que vous aimez rechercher aussi. Au fil des rencontres? Parce que j'imagine que ça procure du plaisir, donc on a envie que ça recommence.
Oui, alors ça procure du plaisir et en même temps une forme peut-être aussi un peu de frustration, et puis je me trouve un peu ridicule parce que j'imagine des choses qui sont pas du tout la
mais
réalité.
Mais il y a que vous qui le savez.
Je me dis allez, il faut soit un peu courageux, va lui parler, et puis en parlant on se rend compte que finalement c'était pas exactement ce qu'on avait imaginé. Bien sûr. Mais ça c'est vraiment, j'allais dire le coup de foudre, mais vous allez sûrement en parler, qui est quelque chose de très chimique, de très potentiel, de très fantasmé peut-être, que moi j'aime beaucoup, mais qui est qui veut pas dire grand chose, si. Enfin, je sais pas, là, je pose la question aux experts. Si, ça veut dire quelque chose.
Ça a du sens quand même pour chacun.
Non, mais sur la naissance du sentiment amoureux.
J'allais rebondir sur effectivement le coup de foudre comme facteur d'émotion interne, que je trouve assez chouette et extrêmement important au niveau fantasmatique. Et justement, en disant qu'on n'est pas obligé d'en faire grand-chose, en tout cas, je parle de mon point de vue de sexologue, mais d'avoir des émotions, d'avoir des sensibilités, d'avoir un stimuli externe qui nous fait ressentir quelque chose, je trouve que c'est quand même vachement chouette et c'est à entretenir si possible. Après, qu'est-ce qu'on en fait? C'est un peu comme les fantasmes, on n'est pas obligé de les réaliser.
Ouais, bien sûr.
On le sait très bien maintenant, on le dit de plus en plus, et je pense que cette espèce de coup de foudre qu'on peut parfois avoir de manière amicale, de manière amoureuse, de manière avec le même sexe, avec un autre sexe, ça peut être avec une personne qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais. Je trouve ça assez chouette au niveau fantasmatique, en tout cas.
Ben Mazoué.
Ça me fait penser à ces films où ils disent, par exemple dans Will Hunting, par exemple, où il dit, quand il est rentré dans le bar, finalement, il n'est pas allé voir ce match parce qu'en fait, il a croisé le regard de cette fille et il a dit, j'ai toujours su que c'était elle, je savais que ce serait elle. Et je pense ce truc-là de j'ai toujours su que c'était elle, je savais que ce serait elle, c'est bien dans le coup de foudre, ça arrive là,
oui.
Mais ça commence à être vraiment de l'amour quand c'est elle, à plein d'autres moments de la rencontre, ouais, j'imagine.
France Inter, grand bien vous fasse. Cette histoire, elle est particulière puisque c'est une histoire en plus qui est inattendue, moi, dans ma vie amoureuse. Donc, j'ai un souvenir très précis de ce moment où on a passé la première nuit ensemble, d'une sexualité avec une femme, puisqu'elle est unique dans ma vie. Et si tu me demandes le premier moment d'affection avec elle, je pourrais pas le définir parce qu'il y avait un climat d'affection, il y avait un climat de tendresse, un climat d'amour même. Depuis longtemps avec elle, c'est une femme tendre.
Extrait du film que je vous conseille vivement, Fragment d'un parcours amoureux, documentaire réalisé par Chloé Barreau et qui donne la parole à des hommes et des femmes qui l'ont aimé, comme la cinéaste Rebecca Zlotowski que l'on vient d'entendre. Et ce matin, nous parlons de la naissance du sentiment amoureux avec nos invités, la sexologue Claire Alquier, la maîtresse de conférence Élodie Ripoll et le chanteur Ben Mazué. Claire Alquier, moi j'aime beaucoup ces mots de Rebecca Zlotowski. Il y a ce terme d'inattendu, puis cette expression de climat d'affection, qu'en pensez-vous ?
Du bien. Oui, effectivement, j'imagine que c'est pas tellement facile de programmer le fait de tomber amoureux ou le fait d'avoir un coup de foudre. Enfin, on peut utiliser pas mal de termes différents, encore que le fait de tomber amoureux, pour moi, ça s'inscrit plutôt dans une durée, où il y a de la construction, où il y a de la découverte. Et peut-être qu'on peut vraiment parler d'amour une fois qu'on a passé le coup de foudre, ou en tout cas la première attirance qui nous lance un petit peu dans le projet amoureux et qu'on découvre les affres un peu de tout ça, les défauts de la personne, toutes les petites subtilités qui font qu'on arrive quand même à continuer à être attaché.
Bien sûr. Élodie Ripoll ?
Oui, ça me rappelle beaucoup de textes du XVIIIe siècle, ah oui. Directement, parce qu'on a vraiment ce pacte du coup de foudre dans les romans qui est plutôt associé au personnage masculin. Donc c'est eux qui vont éprouver ce sentiment qui va les envahir, qui va être vraiment de l'ordre de l'instantané et qui peut se confondre avec la naissance du désir aussi. Tandis que chez les personnages féminins, on va plutôt avoir quelque chose de beaucoup plus progressif, un intérêt qui va graduellement se développer vers une forme d'amour. Et ça marche aussi pour les rencontres amicales chez les femmes.
Et oui, c'est aussi présent, très présent, oui. Ben Mazué, dans le film de Chloé Barreau, il y a un personnage qui dit une phrase qui revient à ce qu'on est en train de dire. On est d'abord amoureux et après on aime. Vous êtes d'accord avec ça ? Ça revient aussi à votre définition de la potentialité, ce que vous nous racontiez tout à l'heure ?
Ouais, c'est ça. Et j'allais dire, on peut être aussi d'abord coup de foudreux,
oui.
puis amoureux, puis on aime.
Oui.
Parce que j'ai toujours su que c'était elle. Après, on s'approche et puis c'est pas du tout elle en fait. Hein. Ça peut arriver plein de fois. Enfin, en tout cas, moi, ça m'est arrivé vraiment plein de fois. Donc, je pense que oui, c'est ça. On est d'abord coup de foudreux, après on est amoureux, après on aime. Et c'est vrai que quand on est avec une personne, enfin moi j'ai le sentiment que quand on est avec une personne depuis 15 ans et que ça a été un coup de foudre, on adore dire. Je l'ai toujours su.
Oui, bien sûr.
Dès le premier regard, ouais. Je le savais.
Ouais.
Parce que bon, après ça, il y a eu, oui, ça, il y a eu l'humour.
Ouais.
Après ça, il y a eu les proches, l'endroit d'où elle vient ou d'où il vient. Enfin, tellement d'accroches, d'atomes qui doivent être crochus dont on ne peut pas savoir qu'ils vont être crochus au premier regard.
Bien
sûr. Je ne crois pas à ça, moi.
Ouais, moi non plus. Claire Alquier, toujours dans le film, Anna Mougladi dit « Plus on aime, virgule, on aime ». Qu'est-ce que vous en pensez ? On peut cultiver l'amour, comme disait Ben, on adore tomber amoureux, on adore ces moments de rencontre.
Ouais.
C'est quelque chose qui peut se cultiver.
Oui, tout à fait. Et je pense que d'ailleurs, une fois qu'on a compris ça, ça nous donne quand même plein d'outils pour travailler notre couple, perdurer dans le temps, si on le souhaite. Évidemment, on n'est pas obligé, parce qu'on est en couple, d'avoir envie d'avoir des relations qui durent non plus toujours. Je ne fais pas une généralité, mais en tout cas, je suis assez convaincue qu'en prenant conscience de ça, ça apaise beaucoup de choses déjà. Et ça permet de pouvoir se dire, oui, il y a des sujets sur lesquels il faut un petit peu se mobiliser, un petit peu bosser, mais on peut le faire en équipe déjà, ce n'est pas l'un contre l'autre. Et puis, donc moi, je fais un plaidoyer volontaire contre la passion, mais pour l'amour tranquille. Donc, oui, je crois qu'on peut continuer à s'aimer, effectivement, comme vous le décrivez. Et d'ailleurs, il y a Boris Cyrulnik qui disait...
Ah, vous allez en
parler.
Mais oui, vous le lisez dans mon cerveau et c'est pas sympa, en fait.
Je suis désolée, du coup.
Je peux vous couper ou pas ?
Oui, allez-y.
Je voudrais vous faire écouter l'extrait, justement, d'une interview du neuropsychiatre Boris Cyrulnik. On l'avait pas préparé, vous avez vu ça, c'est la classe quand même. Hein. Il est au micro de Léa Salamé sur France Inter. Comment notre cerveau réagit quand il y a un coup de foudre ?
On voit sans difficulté que les neurones, quand on tombe amoureux, tous les neurones, ce qu'on appelle le faisceau de la récompense, sont activés. Alors le faisceau de la récompense, on le voit en neuroimagerie. L'ordinateur capte la dégradation du glucose, ça dégage de la chaleur, et l'ordinateur est codé pour traduire en couleur l'intensité de la chaleur. Et on voit des bandes rouges. Je tombe amoureux, tout mon système de la récompense passe au rouge. Que ce soit amoureux d'une femme, amoureux d'un bébé, amoureux d'un paysage, chez tous les êtres humains, c'est la face inférieure qui passe sur le noyau incubin, ce que vous fréquentez tous les jours. Et le noyau incubin, c'est un ensemble de neurones qui stimule la sécrétion de la sérotonine, de l'oxytocine, des endorphines naturelles. C'est un shoot biologique provoqué par une émotion amoureuse.
J'adore cette notion de shoot biologique et cette zone rouge. On a l'impression que on imagine que notre cerveau est en train de bouillonner quand on l'entend. Claire Alquier.
Oui, c'est vrai. Et puis, bon, c'est là qu'on se rend compte que le cerveau, quand même, c'est le premier organe de tout, quoi.
Ouais.
C'est le premier organe de l'amour. Nous, on raconte tout le temps que c'est aussi le premier organe dans la sexualité. Donc, ce cerveau, il est quand même sacrément fonctionnel. Et c'est pas mal pour comprendre cette notion de, on parlait du coup de foudre, ben oui, ça retombe. Et après, s'installe peut-être un amour qui perdure. Et du coup, ça n'est pas forcément grave de ne plus être complètement papillonné parce que les endorphines, l'ocytocine, la sérotonine sont à balle. Enfin, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant à observer là-dessus.
Mais alors justement, je voudrais qu'on rebondisse sur ce que vous disiez, Ben Mazuet, parce que donc il y a effectivement ce coup de foudre et cette rencontre, et après on sent bien que la naissance du sentiment amoureux, il dépend d'autre chose. Il y a le coup de foudre, ça peut être aussi un objet construit, je dirais. Ça va dépendre de notre psychologie, de notre environnement social, de notre culture. Je pense que vous le constatez, Élodie Ripoll, dans la littérature, il y a tout ça qui rentre en jeu dans l'histoire d'amour.
Ah oui, tout à fait. Et c'est surtout aussi le modèle de famille qu'on a eu. Il y a beaucoup de choses qui interviennent, et on le voit très bien dans une multitude de textes.
Et vous aussi, Claire Alquier, c'est tout ça qui rentre en jeu dans la construction du sentiment amoureux ? On peut parler du construction, je ne sais pas, mais...
Oui, dans la construction, et puis surtout dans sa manière de pouvoir gérer les difficultés qu'on va pouvoir rencontrer dans la construction d'une histoire d'amour, parce que c'est quand même à minima deux personnes. Déjà, tout seul, ce n'est pas simple, je trouve. Alors, à deux, on complexifie encore un peu plus l'équation. Donc, oui, tout ça, évidemment, conditionne un petit peu les ressources qu'on va pouvoir développer pour s'en débrouiller, les interlocuteurs, interlocutrices qu'on va pouvoir aller contacter pour travailler un peu là-dessus. Oui.
Ben Mazuet, vous le constatez, ça, notre environnement social, il est extrêmement important aussi dans ce sentiment amoureux qu'on essaye de faire perdurer.
Vous voulez dire nos amis, nos proches ?
Oui, nos amis, nos proches, ça peut être aussi notre condition sociale, là d'où on vient, comment on envisage la vie.
Oui, bien sûr. Et puis aussi le chemin qu'on prend,
bien sûr,
les virages qu'on prend, si on arrive à les prendre ensemble un peu de manière parallèle ou si on se télescope complètement. C'est pas du tout évident. Je pense aussi à ce qu'on est prêt à donner pour l'autre, aux grandes expériences qu'on va vivre, aux grandes joies, peut-être aux grandes peines aussi qu'on partage. Je sais pas, par exemple, l'impact que peut avoir sur une histoire d'amour le fait d'avoir connu quelqu'un de défunt, par exemple. Moi, je me pose souvent cette question-là. Par exemple, moi, la personne que j'aime, elle a connu ma mère, qui est morte très peu après qu'elle l'ait connue. Et je connais pas mal de couples dont l'un a connu la mère ou le père de l'autre avant qu'elle meure. Et je me demande, par exemple, quel impact ça a sur le sentiment amoureux, sur le fait de se dire, cette personne-là que j'aime depuis si longtemps, en plus, elle a connu des gens très proches.
Il y a comme un lien qui s'était formé un peu plus fort
peut-être
encore.
Peut-être que ça tisse un truc en plus, ouais. Peut-être que dans la naissance, dans la fondation du sentiment amoureux, Les grandes rencontres comme ça, comme les grandes expériences, les grands virages, ça doit quand même sceller quelque chose de puissant. Certainement pas en termes d'ocytocine et d'endorphine. Mais et c'est donc pas passionnant, comme vous dites, mais c'est pas non plus tranquille. C'est-à-dire que c'est quand même assez puissant, malgré tout.
Claire Alquier.
Ben, est-ce que du coup, c'est pas là qu'on parle d'attachement et de la notion d'attachement quand on a justement traversé des étapes plus ou moins traumatiques, plus ou moins joyeuses, et qu'il y a une espèce d'aventure un peu humaine ensemble au fil de l'eau.
Une curiosité pour l'autre aussi, et de compréhension de l'autre qui est extrêmement importante dans ce sentiment amoureux.
L'envie de s'inviter mutuellement dans le monde respectif de chacun, avec ce qu'on aime, avec ce qu'on a appris justement quand on était jeune, avec ce qu'on nous a transmis. Donc moi je pense qu'il y a quand même une notion d'attachement qui est importante dans l'amour qui se construit au fil du temps et qui participe à cette aventure.
Mais est-ce que c'est, pardon,
Ben Mazuet,
mais est-ce que du coup c'est un faux ami, l'attachement par rapport à l'amour ? Est-ce qu'on peut être très attaché sans s'aimer en vrai, et qu'au final parfois ça fait 20 ans qu'on est ensemble et en fait on s'aime plus, on est juste attaché ? Ça, c'est possible ?
Ah, très bonne question.
Alors moi je ne pense pas.
Bien que ça, c'est une question qu'on me pose souvent au cabinet, justement. On est très attachés, mais je ne sais plus tellement si je suis amoureux. Ben, Cyrulnik, justement, disait qu'on tombe amoureux, mais tombe pas attaché.
Non, on n'a pas l'archive. On n'a pas l'archive, ne me cherchez pas.
Je peux y aller. On tombe amoureux, mais on ne tombe pas attaché. Et je trouve que c'est quelque chose qui est vachement intéressant. Moi, je le vois plutôt comme quelque chose de progressif. Et ce n'est pas tellement que quand on est attaché, on n'est plus amoureux. C'est plutôt que l'un et l'autre vont évoluer peut-être de manière assez commune et concomitante à mesure du temps passé ensemble, du temps passé à se découvrir, à mesure des souvenirs qui s'inscrivent aussi. Je pense que l'amour, c'est ça. Donc oui, il peut y avoir sûrement un petit peu de passion au début, si c'est une passion qui n'est pas écrasante. Mais probablement que ça laisse place à cette notion d'attachement que je trouve vachement chouette dans la relation.
Je voudrais qu'on fasse une aparté chez Marivaux, parce que c'est extrêmement intéressant la façon dont lui, il parle de l'amour. En fait, en vous lisant Élodie Ripoll, je me suis aperçue qu'il a une approche très moderne du sentiment amoureux. Il y a par exemple, vous parlez d'un texte, Le paysan parvenu, que je ne connaissais pas. Le personnage tombe amoureux d'une femme de 50 ans. Ça devait être extrêmement rare à l'époque de trouver ça en littérature.
Ah oui, je pense même que c'est un cas assez unique au XVIIIe siècle. Bon, elle n'est pas mariée, elle n'est pas veuve. Et puis on nous écrit bien qu'elle fait beaucoup plus jeune.
Oui.
Mais c'est quand même quelque chose de très inhabituel parce qu'en général, les personnages qui tombent amoureux ont à peu près le même âge. Donc ils ont moins de 20 ans, ils sont très jeunes. Donc c'est vraiment une expérience du début de la vie, pour ainsi dire. Alors on a des constellations, on va avoir des hommes âgés qui se marient avec des jeunes filles. Bon. Ils ont une quarantaine d'années, ils sont quand même un petit peu ridicules aussi, mais c'est socialement plus accepté. Et Mademoiselle Habert, non. Ouais. Ça, c'est vraiment une exception. Alors certains la trouvent ridicule, mais c'est quand même un cas très proche de nous finalement.
Et alors, on arrive à expliquer pourquoi il avait cette approche aussi moderne du sentiment amoureux ?
Alors, à son époque, on a différentes façons de tomber amoureux en littérature. On a toujours cette passion qui va menacer l'ordre social. Exactement, qui est très liée à la tragédie. Là, on est plutôt chez Prévost avec ce que Desgrieux et Profumain dans Lescaut. On a au théâtre aussi des scènes de première rencontre qui sont très amusantes, un peu ridicules, avec des quiproquos. Bon, là, on est vraiment dans un théâtre partiellement à l'italienne ou partiellement dans l'héritage de Corneille. Et Marivaux, on a quelque chose de complètement différent, une troisième voie où il va explorer quelque chose d'autre avec l'amour-propre, qui va aussi parasiter finalement la naissance du sentiment amoureux.
Et alors comment il écrit physiquement en fait ce qui se passe ? Parce que ça paraît évident, on parle de la rencontre, du coup de foudre, du sentiment amoureux, mais quand on est devant sa page blanche et qu'on doit le décrire, vous allez peut-être nous en dire un mot tout à l'heure, Ben Mazumé, il faut pouvoir trouver les mots, il faut pouvoir le décrire, ce sentiment amoureux.
Alors au théâtre, parce qu'il est d'abord un auteur de théâtre, c'est effectivement un peu plus compliqué puisqu'on n'a que les dialogues, et puis ce n'est pas un théâtre qui a beaucoup de didascalie, donc tout est laissé à l'appréciation des acteurs. Et c'est la tradition italienne, donc on est habitué à un jeu d'acteurs beaucoup plus présent, beaucoup plus développé. Mais on va plutôt avoir au niveau du discours des personnages qui restent ensemble, mais n'ont pas grand-chose à dire, veulent se parler, mais ont oublié de quoi il était question, qui se disent « Ah, mais je vais quitter la scène, je vais sortir de cette pièce », et puis qui restent là encore plusieurs minutes. Et on a vraiment cette confusion des pensées chez les personnages qu'on est amené à voir directement par leur discours. Et puis leurs corps sont habités par les acteurs qui vont justement
l'exprimer.
Eva Rock. Grand bien vous fasse. Sur France Inter.
Et toi, Fifi ? Tu as repéré l'homme de ta vie ?
Cherche plus. Les dés sont jetés. Je suis amoureuse de lui depuis des siècles.
Ah oui ? Qui est-ce ?
Toi, Charlie. Ça a toujours été toi, depuis notre première rencontre. Il y a tant d'années. Je l'ai su dès le premier regard. On travaille une pièce pleine à craquer. Non, c'était un jardin. C'est pas grave. On n'y peut rien, ni l'un ni l'autre, de toute façon. C'est la vie. Être amie, c'est bien aussi. C'est déjà pas mal.
Ben Mazumé, vous croyez qu'on est dans le cerveau des invités ? Je vous ai vu sourire.
Parce que j'ai parlé de cette scène avec une de vos collaboratrices.
Eh oui, avec Anna Massardier. Exactement. Qui a préparé cette émission avec nous. Oui, extrait du film culte « Quatre mariages et un enterrement ». C'est la grande déclaration de Fifi alias Fiona auprès de Charlie. C'est un face-à-face entre Christine Scott-Thomas et Hugh Grant. Parce que parfois, oui, on a du mal à déclarer sa flamme. Pourquoi vous aimez ce film, vous savez ?
Ce film ou cette scène ?
Cette scène en particulier.
Parce que d'abord, je trouve que dans les films de Richard Curtis, il y a des scènes d'une tendresse et d'une... d'une beauté exceptionnelle. C'est pas que drôle, c'est parfois vraiment très très beau. Cette scène-là, elle est très très belle. La scène des aéroports dans Love Actually aussi, je la trouve très très belle. Tant pis si elle est particulièrement, populaire. Je la trouve quand même sublime. Et là, en l'occurrence, ce que j'aime beaucoup dans cette scène, c'est que depuis le début du film, on se demande pourquoi Christine Scott Thomas, on a l'impression qu'il y a quelque chose, la turlupine, quoi. Elle fume beaucoup, elle est toujours un peu pince sans rire, elle a quelque chose qui lui pose un problème. Elle a une épine dans sa chaussure, quoi. On sait pas très bien ce que c'est, on se dit que c'est son tempérament, que c'est un trait de caractère, pas du tout. À la fin, il nous explique par cette magnifique tirade qu'en fait, elle s'accommode d'une amitié d'un type qu'elle aime tant, en fait. Et c'est beau quand elle dit ça. J'adore.
Vous trouvez que c'est un amour sacrificiel, finalement ?
On dirait bien, En plus, elle en bave parce qu'elle le voit tomber amoureux, elle l'aide et tout. Alors, je sais pas ce qu'il faut faire de ce genre de situation.
Alors, vous avez dans votre dernier album une chanson qui était intitulée Crush.
Alors, dans cette chanson, je sais ce qu'il faut faire de ce genre de situation.
Oui, voilà. Et vous revenez sur cette nécessité d'audace. Je vous propose qu'on en écoute un extrait.
D'accord.
Emily, ne vois-tu pas que ça y est ? Ne vois-tu pas que ça y est, ton ami ? Tu l'as love-zoné, love-love-love-love-zoné. Y'aura pas de marche arrière, c'est pas grave, parce que c'est mieux l'amour que l'amitié qui sait que se taire pour éviter d'être percé à jour. Si tu lui dis tu avances, s'il décline, alors tourne la page, mais peut-être que lui aussi pense à te prendre dans ses bras quand il te dévisage, à te rouler des pelles au milieu du village, passer des week-ends torrides et sauvages, à prendre un petit appart, à parler de mariage. Qu'est-ce que tu risques en vrai ?
Mais oui, qu'est-ce que tu risques en vrai ? Ça requiert du courage pour vous, le sentiment amoureux ?
De se déclarer ?
Ouais, de se déclarer.
Certainement, oui.
Il faut oser, en fait.
Ça demande du courage. Après, moi, dans mon expérience personnelle, ça a toujours été un trop-plein. J'ai toujours été obligé de le dire. J'ai jamais réussi à être Christine Scott Thomas. Moi, réussi à aimer assez pour me contenir.
Mais si, parce que votre étudiante, pendant la fac de médecine, vous n'y allez pas, quoi.
Oui, mais ça, c'est les coups de foudre quotidiens, j'allais dire.
Oui. Quand vous voyez que ça perdure, en fait, que vous avez ce sentiment amoureux qui se construit au fur et à mesure chez vous.
Bien sûr, j'ai le souvenir en seconde d'être allé chez une fille, chez elle, un samedi après-midi, toquer, sonner à sa porte en lui disant, voilà, je suis amoureux de toi, faut que je te le dise vraiment, quoi, ça devient insupportable. Ouais, je pense que c'est ça, ça devenait insupportable de ne pas le dire. Et de me faire éconduire vraiment gentiment, mais totalement en tout cas.
Et alors, quand vous êtes éconduit, qu'est-ce que vous ressentez ?
Je crois que déjà je me sens libéré moi personnellement
du fait de l'avoir dit,
c'est ça. Je suis pas hyper content
forcément. Bah oui, j'imagine.
J'ai pas le souvenir d'une grande et immense souffrance et tristesse comme peut l'être celle d'une rupture. Pas du tout. J'ai pas ce souvenir là. Peut-être d'un ridicule un peu, mais pas d'une grande souffrance bizarrement.
Mais ça veut dire que ça vous entre guillemets ça vous vaccine pas pour la suite. Vous retombez amoureux et vous allez redire à la personne en question que vous l'aimez, quoi.
Ah oui.
Quitte à reprendre un vent, comme on dit.
Mais bien un vent, un râteau. Et voilà. moi, j'ai l'impression, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qu'il y a beaucoup de gens qui ont la mémoire sélective en amour, qui sont capables de se souvenir des bonnes choses, peut-être justement pour pouvoir retomber amoureux, y compris de leurs histoires d'amour passées, qui n'étaient pas forcément toujours glorieuses. Je ne sais pas ce que.
Ah, j'adore cette idée, Claire Alquier. Vous croyez ça ?
Je partage complètement. Je pense que la mémoire tout court est un peu sélective. Et nous permet d'avancer en gardant quand même plus le positif que le négatif, même si évidemment qu'il peut y avoir des histoires traumatiques et des histoires difficiles. Mais oui, je suis complètement d'accord avec ça.
Et le dirait Paul ?
Alors j'ai l'exemple inverse, parce que il y a plusieurs pièces de Marivaux, donc dans La Surprise de l'amour, où on a des personnages plus âgés qui sont déjà tombés amoureux, qui ont souffert à cause de leur amour et qui jurent leur grand Dieu qu'ils ne retomberont jamais amoureux jusqu'à ce qu'ils soient surpris. Effectivement, par l'amour. Et donc, c'est pas une mémoire sélective. Oui. Au contraire, c'est vraiment quelque chose à surmonter pour justement, après, pouvoir être pris par ce tourbillon d'émotions. Mais c'est une surprise.
Et être disponible, parce qu'on ne l'a pas encore dit. Mais Claire Alquier, alors là, je m'adresse à la sexologue que vous êtes. Est-ce qu'il ne faut pas se rendre disponible aussi pour que ce sentiment amoureux naisse et se construise ?
Se rendre, je sais pas si c'est vraiment quelque chose qu'on contrôle complètement, dans le sens où moi j'allais rebondir sur la notion de temporalité, mais ça parle un petit peu
sûr,
de ça finalement.
Bien
sûr que quand on a été abîmé dans une histoire ou dans une déclaration d'amour qui s'est mal passée, selon comment on est, comment on fonctionne, sa personnalité propre, probablement qu'on a besoin d'un peu de temps ou de beaucoup de temps pour réparer certaines choses, pas tout oublier, parce que je pense pas qu'on oublie complètement quand ça a été douloureux, mais que ça soit un endroit qui soit gérable et qui permet
permettent, du coup, comme vous le dites, de se rendre disponible. C'est simplement qu'on a peut-être fait un petit peu, laisser passer suffisamment de temps, travailler un petit peu sur le sujet aussi, bien pour sûr. Réparer ce qui devait l'être, pour pouvoir être à nouveau ouvert.
Parce que c'est difficile de se déclarer. C'est comment on exprime ses sentiments face à l'autre. Quand je vous écoute, Ben Mazoué, ça a l'air tellement simple d'aller sonner à la porte d'une fille et dire je t'aime, mais moi, je suis incapable de faire ça, par exemple, vous voyez.
Déjà, ça n'a pas marché.
Oui,
c'est simple vrai, peut-être, raison. Mais totalement inefficace. Donc, je ne vous conseille pas. Oui, je l'ai fait deux fois.
Vous l'avez fait que deux fois.
Ouais, bah deux
et
fois.
Et les deux fois, ça n'a pas marché.
C'était pas terrible, quand même.
Il n'y a jamais un moment où vous avez fait une déclaration comme ça et où ça a marché? Si, dites-le.
Ah, je vous jure, moi aussi, je suis tellement nul pour ce moment précis. Le moment de la déclaration ou le moment où il faut embrasser, le moment où on met la main autour du... J'ai vraiment aucun talent pour ça. Je suis d'une lenteur absolue. C'est très souvent ridicule. C'est pas facile. Hein. Il y a une espèce de groove hein, du
oui,
moment de la déclaration, qui d'ailleurs parfois n'est pas une déclaration, c'est simplement un baiser. Je dis un baiser en vous regardant parce que je pense à un mot... classe, mais oui. Ou un bisou, enfin quelque chose de l'ordre de la tendresse qui peut, c'est pas forcément de dire, parfois c'est juste de prouver.
Oui, d'ailleurs, Claire Alquier, on n'exprime pas ses sentiments uniquement avec des mots, parce qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à exprimer, où les mots ne viennent oui. pas, ne sortent pas, parce qu'il y a des peurs aussi qui remontent, mais vous le dites souvent, il n'y a pas que les mots pour exprimer l'intérêt qu'on a à l'égard de l'autre.
En effet, il y a plein d'autres biais et c'est assez intéressant de faire le petit scan un peu de moi, quel est mon langage que je maîtrise le mieux, celui avec lequel je suis le plus à l'aise, et d'essayer de regarder aussi un petit peu si on a un ou une partenaire, quel est le sien de langage. Est-ce qu'il y en a un en numéro un? Est-ce que on parle souvent des cinq langages de l'amour. Alors c'est une appellation qu'on peut critiquer, mais je trouve que c'est intéressant de décortiquer un petit peu ça et d'observer que, oui, il y a les mots, il y a la déclaration, il y a les mots d'amour, les mots doux, les compliments, enfin tout ce qui est de l'ordre du verbal. Il y a aussi tout le charnel, tactile, corporel, les câlins, les baisers, les rapports sexuels, se tenir la main dans la rue, s'enlacer. Il y a ce qu'on appelle le temps de qualité, qui va être du coup un temps qu'on va mobiliser pour faire des choses de qualité à deux, selon ce qu'on aime faire justement, ou selon ce qu'on aime faire ensemble. Il y a les services rendus, c'est aussi quelque chose qui peut participer à exprimer son amour. Il y a des gens qui sont très à l'aise sur le fait d'être très attentifs aux besoins de l'autre et qui vont rendre plein de petits services.
Ouais.
Et on pourrait penser que c'est assez insignifiant, alors que pour certaines personnes, c'est la manière privilégiée d'exprimer son amour. Donc c'est à regarder aussi.
Oui,
et
alors,
le dernier,
oui, même, pardon,
qui est,
ouais, oui.
qui est important aussi pour certaines personnes, c'est le fait de faire des cadeaux et d'avoir des attentions pour l'autre, des choses qui sont ciblées.
Mais alors, reste la problématique de la réciprocité, parce que j'entends bien ce que vous dites, mais il ne faut pas forcément surinvestir le fait d'avoir un cadeau ou surinvestir le fait que quelqu'un vous rende un service, parce que sinon vous voyez des amours de partout, non ?
Non, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder, moi, ma manière de déclarer mon amour ou de l'exprimer en tout cas à l'être aimé, c'est quoi que je choisis ? Qu'est-ce qui est le plus facile pour moi ? Et puis de regarder ce que j'attends en fait. Comment est-ce que je vois que l'autre m'aime? Comment est-ce que je reçois l'amour de l'autre? C'est sûr que si moi je m'en fous des services et que oui. la personne en face par contre elle est très forte là-dedans, on est sur un endroit différent de langage, donc il s'agit de se traduire un petit peu les choses à un moment pour
voilà,
pouvoir
c'est
communiquer.
Ça. La traduction est extrêmement ouais. importante et ça Google n'a toujours pas trouvé la langue de l'amour. Élodie Ripoll.
Oui, en vous écoutant, je pense que les choses ont en partie vraiment changé depuis le XVIIIe siècle, où l'expression du sentiment amoureux était très très réduite, surtout pour les femmes. Alors les hommes pouvaient se déclarer, évidemment, parce qu'on attend la déclaration,
bien sûr.
Qui généralement est aussi plutôt une signification du désir, donc c'est pas nécessairement de l'amour à prendre au premier degré. Et c'est vrai que pour les femmes qui ne peuvent pas faire le premier pas, déclarer leur sentiment la première, il y a des gestes très subtils qu'on va trouver, donc laisser tomber un mouchoir, vraiment très loin de nous aujourd'hui.
Et qui sont vraiment très bien décrites dans toute la littérature
oui,
du XVIIIe.
Oui, qui peuvent être décrites, ouais. oui, et qui peuvent montrer ce lien, cette affection naissante.
Et alors, si j'ai bien compris, Élodie Ripoll, en vous lisant, tout ce qu'on se dit depuis 10 heures ce matin, de l'ordre de ce qui est de l'ordre du sentiment amoureux, on le retrouve aussi dans des relations amicales. Il y a parfois une confusion entre ces deux sentiments-là.
Alors confusion, je dirais pas, parce que l'amitié au XVIIIe siècle, elle est plutôt entre hommes et entre femmes, donc il n'y a pas vraiment de confusion parce qu'on ne peut pas parler d'homosexualité oui. librement, ouais. de toute façon. C'est plutôt la naissance de l'amitié qui est très similaire à la naissance de l'amour, parce qu'il y a une marque d'intérêt, il y a un échange de regards, il y a quelque chose qui se passe, et un intérêt qui naît. C'est vrai que lorsqu'on lit les romans, les personnages masculins qui se rencontrent, eh bien souvent ça va être instantané, ils se reconnaissent... Ouais. Ils se font des serments, voilà.
comme dans une rencontre amoureuse finalement.
Oui. Ouais. Et pour les jeunes filles ou les femmes, c'est plus lent. Il y a un intérêt, mais on va s'apprendre à se connaître. Ouais. Ça va être un petit peu plus progressif. Oui.
Ben Mazu, est-ce que vous dites « je t'aime » à vos amis, par exemple ?
Bien sûr. Ouais. Alors, on dit beaucoup plus « je t'aime » aujourd'hui. Hein. C'est devenu ouais. très, très
avec
commun.
Vos enfants aussi,
Nos
par
enfants,
exemple.
Oui, ouais. bien sûr. Mais par rapport à la déclaration, ce que vous disiez tout à l'heure, je me dis, on peut déjà commencer par sortir ensemble, comme on dit. Hein. Ouais. C'est déjà. Enfin, on se déclare pas d'un coup. C'est un petit peu brutal, quoi, de dire à quelqu'un qu'on l'aime alors qu'on s'est jamais embrassé, qu'on n'a jamais couché ensemble. Tout ça, ça prend quand même un peu de temps. J'ai l'impression que moi, j'ai la facilité à me déclarer quand j'aime dès lors qu'on est ensemble. Ce que je trouve difficile, c'est le moment où on va se mettre ensemble.
Ouais,
voilà, ça, c'est technique. Mais après, la déclaration elle-même, c'est vrai, elle est super agréable, d'ailleurs, à faire quand on sent que tout se passe bien et que c'est super et tout. Moi, j'utilise beaucoup l'écrit, par exemple. Je suis très à l'aise à l'écrit. C'est, je pense, ma manière de...
Votre langage,
ouais, ouais. Mon langage. Ouais,
et
ouais.
Quand vous étiez jeune, est-ce que vous faisiez pour déclarer votre amour, est-ce que vous faisiez des lettres d'amour, par exemple, où vous écriviez déjà des chansons, des
ouais.
poèmes?
Des lettres, ouais, bien sûr.
C'est
beaucoup,
vrai.
Beaucoup. J'ai une histoire d'amour magnifique quand j'étais en seconde avec une fille qui était en terminale et on s'aimait beaucoup et on s'écrivait tout le temps des grandes belles déclarations.
Oh, vous les avez gardées?
C'était génial. Non, je les ai pas gardées. Ouais. Oh.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Ouais. C'est mon premier amour. Mais tu me l'avais jamais dit, ça. J'ai réalisé après.
Un peu tard, du coup.
Un peu tard, ouais. Trop tard. C'est mon premier amour. Et je sais pas si je vais m'en remettre un jour, en fait, même si c'est terminé.
Extrait de la saison 2 de la série que j'aime énormément, Amour solitaire, elle est disponible sur Arte, avec notamment le comédien Younes Boussif qu'on vient d'entendre, très drôle et touchant dans le rôle de Saïd. Nous parlons sentiment amoureux depuis 10h ce matin. Claire Alquier, est-ce qu'on peut apprendre à aimer ?
Oui, je le pense et je le souhaite. Oui, on peut apprendre à aimer, on peut apprendre à faire évoluer notre amour, on peut apprendre à faire évoluer notre manière d'aimer. Je crois que tout est mobile à partir du moment où on a un petit peu envie de s'y intéresser et peut-être d'écouter, de parler, de lire. Je pense que la culture peut faire beaucoup et l'accès vraiment à des podcasts, à des émissions de radio notamment et à la littérature évidemment peuvent nous aider à faire évoluer tout ça.
Élodie Ripoll, quand vous avez étudié les textes de Marivaux, notamment pour votre ouvrage, est-ce qu'il est question de rupture ? Ou finalement,
oui.
il y a
oui, oui.
un éloge plutôt du sentiment amoureux ?
Non, il y en a. Bien, alors, ça peut être des motifs extérieurs. On essaye de faire rompre un jeune couple parce qu'il n'est pas... il est contraire aux standards sociaux. Les jeunes gens ne sont pas du même milieu. Ou alors, ça peut être aussi parce qu'un des deux n'aime plus l'autre.
Ouais, ouais.
Là, c'est vraiment vécu comme quelque chose de très brutal.
Est-ce que vous avez trouvé des références à des amours homosexuels où c'est totalement caché ou totalement ignoré dans la littérature ?
Alors, ignoré, je ne pense pas. Je pense qu'elles sont codées. Dans le volume, on n'en a qu'une. On n'a qu'un seul cas qui concerne une toccade de Rousseau qui est décrite en des termes assez ambigus.
Ouais.
Donc, effectivement, le collègue a pu montrer... en recroisant certains passages, que là, on peut effectivement penser que, mais on n'a jamais des choses très explicites, malheureusement. Alors, on peut passer par le travestissement aussi.
Oui.
Lorsqu'on on a des personnages de femmes qui vont se travestir en hommes, hein, l'inverse est plus complexe. Et là, si une femme est travestie en homme, il est possible qu'une autre femme...
le fasse aussi.
Prenne un intérêt pour ce jeune homme
ce jeune
délicat.
Homme. Pardon, oui, oui, oui.
Mais ça ne va jamais aussi loin que ça ira au 19e siècle. Là, on a des cas un peu plus différents, mais non, pas réellement. Mais il faut en continuer à creuser.
Oui, bien sûr.
Parce qu'il y a nécessairement des exemples qu'on n'a pas encore trouvés, qu'on n'a pas encore décodés.
Trop codifiés et qu'il voilà. faut décoder, ouais. Ben Mazué, les ruptures ne changent rien à l'affaire. Vous continuez à tomber amoureux encore aujourd'hui, même si vous avez trouvé l'amour de votre vie.
Alors, les ruptures changent beaucoup à l'affaire,
ouais.
Parce que je trouve qu'à chaque fois qu'on termine une histoire d'amour, alors il y a des grands traumatismes, mais aussi des grandes leçons. Les amours passés sont des super briques pour construire les amours à venir. Il me vient une citation d'Aurel San qui remercie ses ex parce qu'il dit qu'il n'aurait pas changé autrement,
oui.
qu'il ne serait pas devenu ce qu'il est devenu autrement. Moi, je pense à ça aussi beaucoup. J'ai l'impression qu'on est toujours, à condition de ne pas être fondamentalement traumatisé par son histoire précédente, quelqu'un de plus apte à vivre son histoire d'amour d'après, justement parce qu'on a changé, il y a des choses qui nous ont fait changer. Donc oui, la rupture change à l'affaire, mais par contre, je continue à avoir très envie d'être amoureux. Ouais.
C'est bien. C'est bien, non?
Ah oui, c'est bien.
Mais oui. Alors, comme tous les jours, j'aimerais que nous terminions cette émission avec vos pépites, les pépites des invités, c'est-à-dire vos coups de cœur qui vont nous permettre de poursuivre la discussion. Claire Alquier, est-ce que ce thème du sentiment amoureux vous évoque un film, un livre, une chanson, une citation, quelque chose?
Alors, le plus facile peut-être, c'est la chanson qui est ma déclaration d'amour aux Beatles et qui est tout simplement « All you need is love ».
Oh, bien sûr.
Voilà. Parce que c'est joyeux, justement, je trouve. Il y a quelque chose de très euphorisant un petit peu là-dedans et dans le son. Dernier petit conseil, un livre qui s'appelle « Désirer la violence ». Le sous-titre, c'est « Ce que la pop culture nous apprend à aimer ». Et du coup, ça vient un petit peu questionner tout ce qui influence notre vision un peu romantique de le coup de foudre, c'est comme ça que ça doit se passer. Finalement, de ne pas aimer toujours les bonnes personnes, enfin, d'avoir valorisé énormément des profils qui, finalement, ne sont pas tellement des vraies relations amoureuses. En tout cas, toutes celles oui. dont on a parlé aujourd'hui. Et donc, c'est un livre de la journaliste Chloé Thibault.
Merci beaucoup, Clara Alquier. Élodie Ripoll.
Alors, en direct lien avec cette lecture-là, on peut relire ou lire Manon Lescaut de l'Abbé Prévost.
Bien sûr.
Pour voir la passion et ce qu'elle conditionne. Donc, c'est exactement, ouais. Ça va dans la même direction. Et sinon, lire ou relire La vie de Marianne de Marivaux.
Alors, vraiment, vous m'avez donné envie de lire ce roman inachevé que je ne connaissais absolument pas. Et ça, voilà, les extraits que vous avez mis dans votre livre donnent très envie. Merci infiniment. Et vous, Ben Mazuet, alors?
Moi, j'ai vu un film sur Arte qui s'appelle Cavale Sentimentale. Vous avez entendu parler de ça?
Non, pas du tout.
Un film anglais, super. Un bon super film du dimanche d'un type d'une vingtaine d'années, trentaine d'années, qui est magnifiquement beau déjà, c'est toujours très agréable. Qui passe une nuit avec une fille sur l'île de Skye, puis il se laisse et puis ils n'arrivent pas à s'oublier. Voilà, je ne vais pas en dire plus.
Merci à vous trois. Élodie Ripoll, votre ouvrage Tomber en amour est édité chez Classique Garnier. Claire Alquier, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Ben Mazuet, le dernier album est intitulé Famille. Vous êtes en tournée cet été, ce soir au Francofolie de La Rochelle, vendredi à Ambert, dimanche ce sera les Vieilles Charrues à Carré. Toutes les dates sont à retrouver sur votre site et sur la page de l'émission via l'application Radio France. Ce matin dans l'équipe d'Amoureuses de Grand Bien Vous Fasse, il y avait Valérie Ayestaraï à la réalisation, Gaspard Guy Bourget la technique, Anna Massardier, Jessica Bagic, Noélia Filliol et Elena Garcia étaient à la préparation de l'émission.
Grand Bien Vous Fasse, un podcast France Inter.